Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone, le quartier de Babel-Oued, un canard affectueux et l'amitié entre Apollinaire et Picasso. Voici le sommaire de cette édition. L'écrivain français Dan Frank, célèbre pour ses scénarios de films et séries, revient avec un nouveau roman qui va passionner les amateurs d'art. Il raconte l'histoire de l'amitié entre Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso à un moment où ils sont compromis dans une affaire de vol au musée du Louvre. Bonjour Dan Frank.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce sont des personnages hauts en couleur, de vrais personnages de romans. Ces artistes de l'époque, pensez-vous qu'ils étaient aussi drôles que vous les décrivez dans votre livre ?
Écoutez, en tout cas, au début du XXe siècle, le livre se passe à ce moment-là. Oui, ils étaient assez... c'était une bohème. La bohème, c'est toujours beau après, c'est ouais. Ce qu'on dit. Mais c'était des farceurs, des joyeux déconneurs, à peu près tous, ouais. Sauf Matisse. Matisse était un cas particulier qui était très sérieux. D'ailleurs, la rencontre Matisse et Picasso, dans mon livre, le montre.
Oui, exactement. Il est un peu coincé, Matisse.
Un peu coincé.
On reviendra sur ces histoires incroyables avec ces artistes et donc Dan Frank qui est en plateau avec nous. Nous parlerons de notre lien avec les animaux grâce au recueil de nouvelles de Caroline Lamarche. Recueil sélectionné pour le prix Goncourt de la nouvelle qui sera décerné le 7 mai. Dans l'actualité des livres de poche, vous entendrez le Mauritanien Berouk depuis Genève. Et puis nous irons en Algérie grâce à la revue du photojournalisme 6 mois. Marion Quillard est en studio avec nous et le photographe Romain Laurando sera en liaison depuis Alger où il photographie les événements actuels et le rôle de la jeunesse dans ce grand mouvement de contestation.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont avec nous en multiplex comme toujours. Pour la France, on retrouve Anne-Rosine Vosa de la librairie Le Papillon Bleu à Fort-de-France en Martinique. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Très bien.
On remercie Martinique Première qui assure ce duplex. Grâce à eux, vous êtes avec nous. Quel temps fait-il à Fort-de-France ?
Il fait super beau.
Étonnant.
Avec une mer bleue.
C'est incroyable. Ah, il y a la mer là-bas.
Oui, mais en fait, les studios sont face à la mer.
Oui, je sais. C'est donc, magnifique voilà. D'ailleurs.
Ah,
ouais. Je vous y vois. Merci d'être avec nous, Anne. En Suisse, c'est Laura Sanchez. Bonjour, Laura.
Mais bonjour, Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie du Boulevard à Genève. Vous n'avez pas la mer turquoise devant vous.
Alors non, pas vraiment.
Pas vraiment. Bonjour, Nathalie Clairin.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes libraire à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine et vous représentez donc la Belgique. Et au Canada, on retrouve Jérémy Lagnel de la librairie Carcajou à Rosemère. Bonjour, Jérémy.
Bonjour, Emmanuel.
Le froid se tasse, paraît-il, ou... Ou non.
Oui, lentement, mais sûrement.
Lentement,
de très belles journées.
Là. Oui, les prévisions sont bonnes. Tenez bon. Merci d'être avec nous tous les quatre. On vous retrouvera tout au long de l'émission. Bonjour Caroline Lamarche.
Bonjour Emmanuel.
On parlera de nos liens avec les animaux tout à l'heure, avec votre recueil de nouvelles paru chez Gallimard. Mais on commence toujours cette émission par une anecdote. Vous le savez, car vous êtes une fidèle auditrice et vous êtes déjà venue ici. Qu'avez-vous choisi de nous raconter, Caroline ?
Alors, c'est une anecdote qui est une rencontre. Il y a 30 ans, mourait Danilo Kiš, le grand écrivain yougoslave à 54 ans. Et il y a 29 ans, j'avais été l'écouter à la librairie Tropisme à Bruxelles. Jeune poète tremblante et qui voyait tout à coup son inspiration fiche le camp littéralement. Je n'écrivais plus de poèmes. Et j'ai été le trouver après la présentation du livre et je lui ai posé une question qui était au fond une question technique. Je lui ai dit voilà, la poésie me quitte mais je sens que je ne pourrai plus jamais m'arrêter d'écrire. Quel est votre conseil ? Et il m'a fait cette réponse avec une douceur et une attention extrême, avec toute sa personne, telle qu'il était. Et il m'a dit simplement « Je pense qu'il vaut mieux éviter la prose poétique. » Et ce faisant, il me disait en quelque sorte « Oublie ce que tu connais. » Et je crois que c'est ce qui m'a permis vraiment d'aller vers la nouvelle. À ce moment-là, je me suis mis à écrire de la nouvelle et je n'ai pas fait de la prose poétique, j'ai raconté des histoires.
Avec un peu de poésie toujours.
Toujours.
Eh oui. Vous l'avez gardée en vous la poésie.
Je l'ai gardée en moi. J'ai gardé le souvenir de son œuvre immense qui est traduite chez Gallimard par Pascal Delpech. Ouais.
On parlera de vos nouvelles tout à l'heure. Il y a plein d'histoires racontées autour des animaux.
Il y a plein d'histoires.
Avec un peu de poésie d'ailleurs. Merci d'être avec nous. Caroline Lamarche est dans la librairie francophone cette semaine.
Carlos, vous connaissez pas ? Jamais entendu parler ? Hein ?
Pierre n'a pas été abattu par un membre d'Al-Qaïda. De l'œuvre le sait, je suis formel.
Vous pourriez choisir quelqu'un d'autre que moi.
Un homme de l'ombre se met jamais en lumière.
La résurrection de Tikomun
est une affaire économico-politique.
Marseille, ma belle Marseille. Et m'a redonné la force de revenir d'entre les morts.
Tu te fais bouffer.
Ces gens sont en train de te retourner, tu ne vois même pas.
Sur ce florilège des scénarios signés d'Anne Frank, Carlos, Les Hommes de l'Ombre, Tico Moon, Denki Bilal ou encore la série Marseille. D'Anne Frank est dans cette librairie pour son nouveau roman événement paru chez Grasset, Le vol de la Joconde, qui est fondé sur une histoire vraie. En 1911, un ouvrier italien parvient à voler la Joconde au musée du Louvre. Il veut la rendre à son pays, alors on s'aperçoit qu'en plus de ce célèbre tableau, des dizaines d'œuvres ont disparu, dont trois statuettes anciennes. Et le Louvre est une passoire, comme l'a écrit Apollinaire.
Absolument. D'ailleurs, Picasso disait à son ami du moment, qui s'appelait Fernand Olivier, « Je vais au Louvre, veux-tu que je te rapporte quelque chose ?»
Oui.
Il y a un aventurier belge qui était le secrétaire de Guillaume Apollinaire, qui s'appelle Géry Pierret, qui s'est vanté d'avoir volé deux statuettes ibériques du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mmh. Et quand il découvre ça dans le journal, Paris Journal, Apollinaire, totalement affolé, appelle Picasso, le téléphone existait déjà, ouais, en lui disant ouais. « Il faut que tu reviennes tout de suite, Picasso est dans les Pyrénées en train de faire du cubisme avec Braque, ouais. Il faut que tu reviennes parce qu'on a un problème. » Alors Picasso revient et Apollinaire lui dit « Voilà, écoute, les têtes ibériques, c'est toi qui les as. » Tu les as achetées à Géry Pierret, elles sont au bateau Lavoir. Et Picasso dit « Ah bon, mais je me souviens pas ». Et en fait, il s'était servi de ces modèles pour faire les demoiselles d'Avignon. Il avait d'ailleurs abîmé un peu les oreilles d'une des statuettes. Et donc, il fouille le bateau Lavoir, retrouve ces statuettes. Et là, c'est la panique. Panique à bord parce que c'est du recel. Et qu'ils sont tous les deux étrangers. L'un est espagnol, l'autre est italo-polonais. Mmh. Et qu'ils risquent d'être expulsés de France, ce qui est pour eux un drame.
Voilà, c'est la panique.
C'est la panique.
Commence alors une traversée de Paris d'Anne Frank que vous avez imaginée, avec les deux amis portant dans une valise ces deux statuettes. Ils vont tout tenter pour les refourguer aux célèbres artistes de l'époque, célèbres aujourd'hui, car à cette époque, justement, on vend quasiment leurs œuvres sur les trottoirs de Paris.
Oui, les marchands d'art sont pas encore venus, c'est-à-dire que les gens qui vendent des tableaux sont des brocanteurs, des anciens boxeurs, des anciens pharmaciens, il y a aussi un ancien clown, mmh. Et ils vendent sur le trottoir, vous avez des Matisse, des Picasso, des Ledouanier Rousseau à côté de poussettes, de fer à repasser, etc. Mmh. Et donc c'est la vie de cette époque, l'ambiance de cette époque de Montmartre et de Montparnasse que j'ai voulu raconter, ainsi que les relations entre tous ces artistes extraordinaires.
Oui. Toutes ces amitiés qui
toutes
naissent,
ces amitiés
qui se défont aussi.
Oui, oui, bien sûr. Mais ce sont des personnages donc en fait qui traversent et qui créent l'art moderne, qui sont Picasso, Braque, Apollinaire, bien sûr, Matisse, Modigliani, Soutine, et j'en passe. Puis et aussi des écrivains ou des poètes comme Max Jacob ou Alfred Jarry.
Qui sont bien présents d'ailleurs là.
Qui sont présents et en fait donc avec ces deux valises, mes deux camarades essayent de trouver un Français de souche à qui ils pourraient confier ces valises et ça cacherait les têtes ibériques.
C'est ça.
Ça les protégerait.
Alors on est comme dans un film, ce qui est pas étonnant avec vous, on l'a entendu avec toutes les collaborations, tout ce que vous avez coproduit. On est comme dans un film et on vous a demandé justement de choisir la bande originale de votre livre-film et je suis très étonné, alors ça tombe bien parce que c'est le parrain de la librairie francophone. Quand on a démarré l'émission au tout début, c'est lui qui est venu pour le pilote, le premier pilote de la librairie, c'est Georges Moustaki. On va écouter un extrait et vous nous expliquez juste après. Voici « Et pourtant dans le monde ».
Tu me diras que j'ai tort de chanter la révolution et la liberté, que tout ça ne sert à rien, que ce n'est pas encore pour demain. Et pourtant dans le monde, d'autres voix me répondent. Et pourtant dans le monde, tu me diras que j'ai tort de rêver en croyant vivre la réalité.
Georges Moustaki avec cet extrait d'Et pourtant dans le monde. Pourquoi ce titre-là? Quel rapport avec l'histoire d'Apollinaire et Picasso?
Le rêve, l'utopie, une espérance, un espoir. À l'époque où Moustaki chantait cette chanson, c'était dans les années 70 à peu près, le monde était très ouvert, très... il y avait beaucoup d'utopie, beaucoup de rêves, beaucoup de désirs, et de même à l'époque de Picasso et de Apollinaire, c'était avant les deux guerres mondiales, et c'était une époque pleine d'espoir.
Alors du coup, vous êtes permis pas mal de liberté avec les dates d'Anne Frank. Vous dites même à un moment, personne ne m'en voudra de coudre mes pages en mêlant les années 1904 ou 1911. Après tout, ça ne change pas grand-chose. En fait, si, Dan, ça change tout.
Ah. Ah, pourquoi?
Parce que cette histoire est absolument géniale et vous la dénaturez. On peut vous le reprocher, ça, de dénaturer non. En faisant venir le douanier Rousseau à un moment où il n'a pas à être là parce qu'il est mort, par exemple.
Oh, il est mort depuis une année.
Oui, mais bon, il est mort quand même.
C'est pas grave, c'est la liberté du romancier. Et puis je le dis, en fait. Plusieurs fois.
Oui.
Je joue en effet avec quelques dates, mais ça n'a aucune importance, franchement.
Ah,
ça
ouais.
Mais vous savez, si je vous dis que le douanier est mort en 1910 et que mon histoire se passe en 1911, ça vous choque?
Bah, quand on connaît l'histoire, un peu.
Ben non, si vous le dites non, puis je suis pas historien, je suis romancier.
Oui, d'accord, mais bon, vous fondez l'histoire sur une base historique.
Oui, mais la base est réelle. La Joconde a été volée, Picasso et Apollinaire ont été accusés de recel, emprisonnés pour l'un des deux. Mm. C'est ça l'histoire fondamentale. Mm. Et par ailleurs, ils ont rencontré toutes les personnes, tous les artistes dont je parle.
On va y venir sur ces rencontres. On va laisser la parole à deux de nos libraires, Dan Frank. On va voir s'ils sont dérangés ou pas. Laura Sanchez pour la Suisse. Ça vous a gêné, vous, cette confusion des dates?
Mais pas du tout, du tout, du tout. Alors moi, je connais pas assez le fait divers pour démêler le vrai du fictif. Hein. Mais alors, quelle vaste rigolade que ce roman. Je trouve que votre rythme est excellent. Et puis, j'ai aussi aimé votre choix de narration avec ces adresses aux lecteurs dont vous avez parlé. Ça nous rend tout de suite complices du projet romanesque. Puis alors, ces deux compères sont tellement attachants. Apollinaire et Picasso sont plus vivants que jamais. Moi, je trouve que c'est un excellent roman pour les prochaines vacances.
Oui, c'est vrai. Nathalie Clément, en Belgique.
Merci.
C'est autre chose qui vous a perturbé, vous, Nathalie?
Oui, en fait, moi, pendant toute la lecture, donc, je me suis crue au théâtre. Ça, j'aimais bien.
Oui, c'est vrai.
Mais je suis en fait partagée, parce que pour moi, il y a un trop-plein de dialogues, ce qui m'a un peu lassée. Par contre, j'ai trouvé très réussi le fait de démystifier justement ces grands artistes en rentrant dans leur monde quotidien, à leur début. Et j'aime beaucoup cette idée de biographie déguisée en roman. Donc, finalement, je tire mon chapeau à l'audace que cet exercice demande.
Merci aussi.
C'est vrai qu'on se croit au théâtre, Dan Frank.
Oui,
je l'ai noté, moi, dans le livre. J'ai mis, tiens, on dirait une scène de théâtre.
Mais parce qu'en fait, ce projet, au départ, j'ai écrit une pièce de théâtre. Et je n'ai pas réussi à monter la pièce de théâtre parce que c'est compliqué. Il faut deux comédiens qui ont des rôles très compliqués et très essentiels. Et donc, j'en ai fait un roman. Mais j'ai gardé les dialogues. Mais d'abord, parce que c'est vivant.
Oui,
Et que vous faites parler des personnages et ça les rend humains.
Image justement de ces rencontres avec le douanier Rousseau. Alors ils se baladent comme ça avec cette valise, ils essayent, je le rappelle, de refourguer les deux statuettes à des amis, et puis ils arrivent chez le douanier Rousseau. Et douanier Rousseau, il est caché sous une chaise.
Oui, alors ça, c'est les anecdotes que je raconte ont toutes été rapportées par d'autres.
Alors racontez-la,
soit par Apollinaire, soit par Salmon ou par des écrits. Eh bien, Picasso et Apollinaire arrivent chez le douanier Rousseau qui habite dans le 15e à Paris. Et puis il frappe à l'atelier, l'atelier est fermé, il monte à l'étage et le douanier Rousseau est recroquevillé sous un tabouret tremblant de peur. Alors Apollinaire lui dit qu'est-ce qui se passe et l'autre lui dit il y a un lion en bas, il y a un lion à l'atelier donc j'ai peur. Et Picasso dit bah, très bien, on va régler ce problème, il est armé, il était toujours armé à cette époque-là Picasso, donc il sort son Browning et puis il descend avec ses deux amis derrière, il ouvre la porte comme les flics pourraient faire dans PJ ou ailleurs et puis il voit le lion et il tire dessus et il tue le lion.
Oui.
Et en fait, on se rend compte tout de suite que le lion, c'était un lion peint.
C'est un tigre.
D'ailleurs, c'était un tigre. C'était un tigre peint par le douanier Rousseau. Et le douanier Rousseau avait tellement peur de ce qu'il pouvait faire lui-même qu'il était parti absolument affolé.
Tellement
pensant
c'était
qu'un
réaliste.
Lion ou un tigre allait le...
C'est d'une prétention extrême.
Oui, mais
c'est-à-dire
Picasso...
qu'il dit, c'est tellement réaliste ce que je peins que j'ai l'impression qu'il vit devant moi.
Il y a eu un débat très longtemps. On se demandait si Picasso est réellement une admiration profonde pour le douanier Rousseau à qui il a acheté plusieurs toiles.
Ouais.
Et en fait, oui. Parce qu'on ne comprenait pas le rapport entre le cubisme et la naïveté du douanier. Mais il y avait une liberté chez le douanier Rousseau et Picasso admirait beaucoup ça.
Bon, poursuivons avec nos libraires. Jérémy Lagniel au Canada, qu'avez-vous pensé du roman de Dan Frank?
Ben, j'ai l'impression que moi, ce livre, c'est un faux départ. Hein. C'est pas que le livre n'est pas sans qualité, loin de là. L'histoire est connue, mais bien ficelée. On rentre dans cette histoire avec un grand H. Reste que j'ai trouvé ça terne un peu. Encore une fois, j'écoute ma collègue suisse qui s'est emballée. J'ai vraiment l'impression que j'étais pas dans les bonnes prédispositions pour y entrer pleinement.
Ouais.
Et il m'en laisse une impression de déjà-vu. Hein. C'est le suspense qu'on tente d'insuffler à l'histoire avec un grand H, sans réelle surprise.
Vous exagérez. Alors, non seulement il attaque l'auteur, mais il attaque ses collègues libraires maintenant. C'est de pire en pire. C'est le pire de tous.
Je veux répondre.
Oui,
elle est connue, l'histoire. Quelle histoire est connue? Pardon.
Bah, l'histoire du vol de la Joconde.
Mais,
ouais.
mais en fait, le vol de la Joconde est un prétexte.
C'est un prétexte, c'est vrai.
Mais je raconte pas le vol de la Joconde. Je raconte Picasso et Apollinaire dans une errance. C'est pas, et ça,
dans
c'est
son
pas
déambulation,
connu, ouais. Puisque c'est inventé.
Oui, oui. Bien défendu. Anne-Rosine Vosa, en Martinique, comment s'est passée votre lecture?
Eh bien moi, je me suis régalée à la lecture de ce livre. Et c'est une véritable pépite, parce que je trouve que le sujet est très original et est porté par une narration et par des dialogues pleins d'humour déjà. Et ensuite, le lecteur se laisse transporter dans l'histoire avec beaucoup de bonheur et éprouve une réelle empathie pour tous les personnages principaux, mais aussi pour tous ces artistes qui ont vécu dans de terribles conditions et dont les œuvres valent maintenant des millions.
Voilà. Ben merci, voilà qui est très encourageant.
3 sur 4, voilà, ça va, ça va. Tout va bien. C'est le débat culturel, il faut
bien
aussi.
Sûr.
Hein.
Bien sûr.
Il y a ces histoires avec Vollard qui dort derrière son comptoir, Max Jacob qui lit l'avenir dans les lignes de la main, Alfred Jarry qui vit dans un appartement très très bas de plafond, à peine 1m60 de hauteur.
C'est une histoire vraie.
Ça, c'est une histoire vraie.
Il habitait rue Cassette au 3e étage et demi. Donc en fait, quand vous étiez chez lui, il fallait on vivait couché ou accroupi, ou enfin on se redressait pas. Et je raconte, il y a une histoire merveilleuse avec Jarry, parce que quand même le drame de Jarry, c'est qu'il n'a pas écrit Uberoi, alors qu'en fait on considère que c'est l'auteur. Pas du tout, il l'a juste un peu arrangé, il a trouvé le titre. Et un jour, Picasso et Apollinaire, dans le livre, raconte, arrivent à la closerie des Lilas et ils voient Alfred Jarry avec une femme. Et ça, c'est stupéfiant, parce qu'on n'a jamais vu Jarry avec une femme, on ne lui connaît pas de femme. Et cette fille est assise à côté de lui, en face d'un miroir à la closerie, et à ce moment-là, Jarry sort son Colt, parce que lui aussi il est armé. Il tire sur le miroir et il se tourne vers la femme et il lui dit « La glace est rompue, maintenant causons. »
Et la fille s'enfuit.
La fille s'est enfuie en courant, et évidemment.
Bon, voilà, cette histoire incroyable avec ces histoires à la fois inventées, à la fois réelles. Dans la véritable histoire d'Apollinaire et Picasso, ils seront finalement arrêtés autour de cette affaire. Apollinaire en premier, le 7 septembre 1911. Il écrira d'ailleurs des poèmes en cellule, et puis Picasso, convoqué par le juge, n'ira absolument connaître Apollinaire.
Oui, c'est une histoire dont il avait un peu honte.
Ben, il peut, oui.
Apollinaire est arrêté avant Picasso, et Picasso crève de trou. Il y a des mémoires de Fernand Olivier qui racontent ça. Il a peur parce qu'il pense qu'il va être arrêté, expulsé. Il est convoqué par le juge d'instruction, il rentre, et le juge d'instruction lui dit « Bonjour, vous appelez Pablo Picasso ?»« Oui, oui, Pablo Picasso, c'est moi. Est-ce que vous connaissez un poète qui s'appelle Guillaume Apollinaire ?»« Non, moi je connais pas de poète. »« Ah bon, ben, je vais vous confronter. Oui. » Il fait rentrer Guillaume Apollinaire qui est menotté, et Picasso regarde Apollinaire, dont, qu'il voit tous les jours depuis déjà des années, et il regarde et il dit « Non, je connais pas ce monsieur. » Et l'autre lui dit, maintenant tu rigoles, j'ai écrit sur les saltimbanques, t'as peint les saltimbanques, on a fait plein de choses ensemble. Et là, Picasso, ça dure exactement 2 minutes, hein, s'écroule en larmes dans l'épaule de son copain et dit, mais bien sûr que je le connais.
Ah oui, donc il finit par reconnaître.
Mais oui, il a fini par, bien sûr, bien sûr. Mais il a eu peur d'être expulsé.
Merci beaucoup d'Anne Frank.
Vous
restez bien sûr avec nous. Le vol de la Joconde est paru aux éditions Grasset. On vous retrouvera tout à l'heure avec une petite surprise. À suivre la chronique de nos libraires avec les coups de cœur et les coups de gueule. Et nous irons en Algérie avec Marion Quillard de la revue 6 mois et un photographe qui sera en liaison avec nous depuis Alger. Avant cela, voici le groupe sénégalais Touré Kounda avec leur tube Wadini, réenregistré et remixé en 99.
tindantino kam do de woni futa toro 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 futa mo babam tindantino kam do de woni futa toro 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 futa mo nena tindantino kam do de woni futa toro 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 futa mo ma una tindantino kam ho ho wadi ni wadi ni wadi ni
Kunda avec Wadini sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter. Allez, la chronique des libraires avec les coups de cœur et les coups de gueule. On commence par la Martinique et donc la France avec un coup de cœur, Anne-Rosine Voza.
Oui, j'ai eu un grand coup de cœur pour la trilogie de Béatrice Nicodème, L'anneau de Cladagh. Et c'est une trilogie qui raconte le périple d'une jeune femme de chambre irlandaise qui a fui son pays pour échapper à la grande famine et pour retrouver un jeune aristocrate dont elle est tombée amoureuse. C'est un texte magnifique qui dénonce la cruauté des règles sociales interdisant les mariages entre personnes qui ne sont pas du même rang et qui rappelle à la fois combien le peuple américain est un peuple d'anciens migrants.
Et c'est dans le rayon des livres pour la jeunesse, hein, bien sûr.
Voilà, bien sûr.
L'anneau de Cladagh, on prononce comme ça.
Oui. C'est ça.
Aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Merci.
Béatrice Nicodème.
Oui, Béatrice Nicodème. Merci beaucoup, Anne. Jérémy Laniel, au Canada, un petit coup de gueule pour changer.
Effectivement, c'est un roman de Philippe Chagnon publié aux éditions Triptyque. Ça s'intitule Le Pourboire. On est plongé avec un homme qui quitte avec sa famille pour aller dans le sud. Vous savez, c'est tout inclus, classique, pour déconnecter. Mmh. C'est un roman de 110 pages. Et cette histoire, bien, ce sera celle de ses vacances dans le menu détail. Mais tous les détails, chaque action nous est racontée. Cet homme va oublier de donner un pourboire à celui qui amènera ses valises dans sa chambre. Il va passer la semaine à le chercher pour tenter de réparer cette bévue. C'est d'un ennui, malheureusement. On passe au travers en se demandant qu'est-ce qui va se passer dans ce livre. Eh bien, rien.
Ouais, le pourboire, c'est le titre du livre en même temps. Hein. C'est normal qu'on s'attarde sur le pourboire.
Effectivement.
Dan Frank me regarde avec des yeux, je vous dis pas.
Non, mais je peux faire un petit commentaire. Oui. Puis, on parle très peu des livres dans les émissions, c'est exceptionnel, et je vous remercie, je vous félicite. Pourquoi ne dit-on pas du bien des livres? Pourquoi choisit-on des livres qu'on a envie de défoncer?
Non, parce que c'est le principe. Non, c'est pas qu'on a envie de défoncer, Dan Frank, c'est qu'on est libre de dire ce qu'on veut aussi, permettez. Oui. Et que la librairie francophone, c'est aussi de la critique, c'est aussi du compliment. Il y a tout, des coups de cœur, des coups de gueule, c'est le principe de la vie, Dan Frank. Tout est comme ça.
Mais autant parler des bons.
Voilà. Mais non, pas forcément. Bon. Merci beaucoup, Jérémy. Laura Sanchez a coup de gueule aussi en Suisse. Allons-y, continuons. On en déplaise à Dan Frank.
Mais oui, je suis très très à l'aise.
Je défends les auteurs.
Mais on défend les auteurs aussi, Dan Frank. Vous inquiétez pas, on fait ça depuis 12 ans. Allez-y, Laura.
Et bon.
Oui, ben moi j'aimerais juste évoquer aujourd'hui l'apparition d'un recueil de poésie signé Arthur Billeret et paru aux éditions de l'Air. Le livre qui s'intitule « À l'aube des mouches » est en soi intéressant en fait, mais moi je questionne la crédibilité d'une maison d'édition, certes très bien implantée en Suisse romande depuis 40 ans, mais qui publie les textes d'un de leurs collaborateurs. Voilà, je trouve pas ça très heureux.
Oui, un peu confusion des genres, c'est ça.
Un petit peu, ouais, je crois.
Merci Laura. Terminons avec un coup de cœur belge, Nathalie Clairin.
Oui, alors moi c'est un coup de cœur dans la catégorie beau livre. Et c'est intitulé « Vivre l'art en Belgique » paru aux éditions Lanoux. Et apparemment on vit mieux en Belgique que dans l'appartement d'Alfred Jarry. Alors l'auteur, c'est la princesse d'Arenberg, d'origine italienne, qui vit à Bruxelles. Et elle nous présente des photos largement commentées de jardins remarquables et de maisons d'artistes et de collectionneurs belges qui n'ont jamais été exposées au public. Antiquité et art contemporain ainsi que toit, avec des influences hollandaises, françaises, africaines, italiennes. C'est vraiment remarquable et cela nous rappelle que la petite Belgique a toujours cultivé l'ouverture et l'art de vivre dans des intérieurs chaleureux. Peut-être pour compenser son ciel trop souvent gris.
C'est vrai, souvent gris, mais il y a beaucoup d'art en Belgique, vous avez raison de le souligner. Vivre l'art en Belgique, c'est aux éditions Lanoue. Merci Nathalie.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Marion Quillard est dans la librairie pour la nouvelle édition de la revue 6 mois. Bonjour Marion.
Bonjour.
Vous le savez, la librairie francophone a un coup de cœur pour la revue 6 mois, revue semestrielle du photojournalisme. Nous partons en Algérie avec ce nouveau numéro printemps-été 2019. L'Algérie où des bouleversements politiques sont en cours. Nous rejoindrons dans un instant le photographe Romain Laurando qui est sur place. Il a photographié le quartier de Bab El Oued pour la revue Marion, un quartier où naissent souvent les insurrections depuis 1988. Date à laquelle 300 jeunes sont tués à cette époque par la police en représailles.
Et même un peu avant, puisque c'est un quartier qui a été aussi marqué par l'OAS. C'est un quartier populaire qui est vraiment au nord de la ville, tout près de la mer. Et c'est un travail qu'on a choisi de publier pour plusieurs raisons, qui est assez symptomatique de ce qu'on fait dans la revue. D'abord parce qu'il est magnifique, c'est du noir et blanc extrêmement beau.
C'est
et
vrai,
je vous invite
ouais.
à le regarder dans la revue ou sur internet si vous voulez regarder sur le site de Romain Laurando. C'est vraiment très très beau. Et surtout, ce numéro, on l'a bouclé en janvier, on l'a publié en librairie à partir de mars. Donc on ne savait pas ce qui allait se passer dans le courant du mois de fin mars et avril, les démissions de Bouteflika. Mais on savait, on voyait dans les images de Romain Laurando quelque chose qui nous permettait de comprendre l'Algérie d'aujourd'hui, qu'on voulait absolument publier.
Effectivement, quand on voit les images, on a l'impression qu'elles ont été prises hier.
Absolument.
Parce que c'est la jeunesse qui fait bouger l'Algérie en ce moment même. Il faut savoir que 54% de la population a moins de 30 ans en Algérie. Quand on voit leurs restrictions comme ça, mises en image dans la revue, on comprend qu'ils veuillent passer à autre chose. Parce que même s'aimer en couple, c'est compliqué à Alger.
Oui, Romain Laurando, c'est un travail de 4 ans sur ce quartier de Bab El Oued. Donc c'est vraiment une immersion de très long terme. Il y met son cœur, voilà, il y met ses tripes. Et il y a pour moi une image dans ce travail qui symbolise tout ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. C'est cette image d'une jeune fille qui vit toute seule dans un studio,
oui,
qui dort dans son lit,
oui,
qui regarde une série.
Oui, sur son
et
ordinateur.
Et derrière elle... Il y a un couple qui s'aime, qui est en train de faire l'amour.
Dans le même lit.
Dans le même lit. Mmh. Et en fait, les gens n'ont tellement pas d'endroit pour faire l'amour, ils n'ont tellement pas d'endroit pour s'aimer, qu'ils partagent le même lit pour pouvoir le faire. Mmh. Et si on ne comprend pas ça, finalement, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi les gens sont dans la rue, pourquoi les jeunes sont dans la rue. Tout ça se matérialise sur une seule image, absolument sublime, charnelle. Et c'est vraiment
très pudique d'ailleurs.
Et très pudique, pudique, absolument ouais. pudique. C'est vraiment ce qu'on aime mettre en avant dans la revue. Cette façon de raconter des histoires à travers des petits... fenêtres, des petites gouttes d'eau qu'on aime faire.
Bon, vous avez relevé exactement la même photographie que moi, donc on va passer tout de suite à la suite. Avant de retrouver Romain Laurando sur place à Alger, voici un petit résumé sonore de la situation actuelle avec des sons de Radio-Canada et de RFI.
On est là pour dénoncer cette turpitude d'un régime mafieux, de voyous qui ont pris le pays en otage.
C'est devenu le symbole du mouvement, la grande poste d'Alger, le cœur de la capitale où convergent tous les manifestants. Timidement d'abord, puis par centaines et par milliers, suivant les appels lancés sur les réseaux sociaux.
On veut changer le système depuis sa base, depuis ses racines. On veut le départ de tous ces vieux qui nous dirigent depuis 20 ans, qui nous imposent une démocratie hypothéquée.
De toute évidence, la nomination du président du Sénat pour assurer l'intérim à la tête du pays ne passe pas.
Ali Baba est parti. Les 40 voleurs sont toujours là.
Moi, président du Conseil de la Nation, je prends les fonctions de chef de l'État durant une période de 90 jours au maximum. Durant cette période, je m'engage devant vous aujourd'hui à organiser une élection présidentielle.
La liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, nous, ça nous fait pas peur.
La musique que vous entendez est celle du rappeur Soul King. Ce titre « Liberté » est devenu l'hymne de la jeunesse algérienne en ce moment. Marion Quillard de la revue 6 mois est dans la librairie francophone aujourd'hui pour parler de la jeunesse algérienne. Et on part à Alger tout de suite rejoindre le photographe Romain Laurando. Bonjour Romain.
Oui, bonjour.
Quelle est l'ambiance sur place en ce moment à Alger ?
Au centre d'Alger, là maintenant, il y a des manifestations tous les jours. Et en dehors, on est quand même, par rapport à ce que j'ai vécu pendant 4-5 ans maintenant, on est quand même sur de l'espoir et une espèce de joie de vivre. Voilà, on sent qu'on est écouté et je pense que voilà, ça se ressent directement dans les... Dans les corps.
Vous avez photographié pendant 15 jours des scènes de rue à Bab El Oued et vous dites que ce qui vous a frappé le plus dans la revue 6 mois, c'est écrit, c'est cette jeunesse qui se nourrit de frustration. Quel genre de frustration ?
Les frustrations, c'est tout, quoi. En fait, les jeunes vivent, c'est-à-dire qu'ils mangent, ils ont un endroit pour dormir, enfin, normalement, mais ils s'interdisent de rêver, quoi. Il n'y a pas d'espoir de lendemain. Enfin, en tout cas, à cette période-là, aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas, à cette période-là, il n'y avait pas cette notion de lendemain. Donc, on est sur le moment présent. On se demande, on aimerait bien avoir une copine, on peut pas en avoir parce que c'est, enfin, on en a, mais caché parce que les voisins, il y a une réputation. On est touché par le chômage de façon incroyable. On est alors toujours ensemble et finalement on est toujours jugé aussi par le voisin.
Donc, oui, c'est ça.
Il faut se faire attention à ce qu'on fait.
C'est ça le problème. Voilà. Ouais. Alors on voit d'ailleurs, Marion Quillard, dans la revue, vous publiez cette photographie sur une plage où il y a un couple qui s'embrasse sur la plage et ça aussi c'est interdit. Il y a même au-dessus d'eux un écriteau. Pour dire que c'est interdit au couple.
Alors même que dans les légendes, qu'on a donc confié à Omar Paco, ce rappeur de Bab El Oued, qui a servi de guide au tout début à Romain Laurando dans son travail, Omar Paco nous dit c'était un haut lieu de fête, de rencontres homosexuelles, et aujourd'hui c'est absolument interdit, et même s'embrasser est interdit par un écriteau. Tout est interdit.
Oui, Romain, vous avez accompagné effectivement votre reportage avec ces commentaires d'Omar Paco, enfant du quartier. Il regrette, il le dit, un énorme gâchis et une détérioration du cadre de vie, car il explique qu'il y avait des bars, il y avait des cinémas, il y avait des boîtes de nuit aussi avant.
Oui, c'est dans le quartier, il y avait 3 cinémas, il y avait des bars, il y avait des dancing, voilà. Et aujourd'hui, il n'y a absolument plus rien.
Oui, on est dans la régression, en fait.
Ce qui est très fort dans le témoignage de Omar Paco, c'est la nostalgie. C'est un homme qui a 35 ans, qui est rappeur, qui a voyagé, qui aujourd'hui vit à Toulouse, et qui est nostalgique d'une époque qu'il n'a pas vraiment connue, dont ses parents, j'imagine, lui parlaient. Et il est même nostalgique de son enfance pendant la guerre civile, de ces endroits où il pouvait se cacher, jouer avec ses amis, rêver. Et cette absence de rêve, il en était privé aujourd'hui et ça lui manque.
Alors il a fini effectivement par quitter l'Algérie pour faire sa musique en France. Mais avant de partir, il a écrit une chanson d'adieu à Bab El Oued. Écoutez.
Bab El Oued ghetto martyr, c'est là que tout est parti. Bab El Oued ghetto martyr, c'est là que tout est parti. Voilà, je pense que tout est dit, mais t'inquiète, c'est pas fini. L'histoire est sans fin, c'est que le début et puis ça donne ça. Mets le sang dans ta caisse à fond, ouais, pour représenter. Vu que la machine est lancée, estampée, personne ne peut la stopper.
Bab El Oued, ghetto martyr, d'Omar Paco. Les élections en Algérie ont été fixées au 4 juillet prochain, ça y est, on a la date. Quels sont les risques ou les espoirs, Romain Laurando ?
Alors là, personne ne sait. En tout cas, je sais que les jeunes veulent continuer à manifester, ne sont pas contents, veulent que tout le système dégage. C'est le mot d'ordre aujourd'hui. Et voilà, et tant qu'ils n'auront pas ça, ils sont déterminés toujours dans une notion de... Bon, ça, c'est nouveau aussi, de pacifisme. Ils ne veulent absolument pas rentrer dans la violence. Par contre, ils vont être là tous les jours s'il le faut pour un changement en profondeur.
Voilà. Bon, en tout cas, la nouvelle est accueillie positivement, apparemment à Alger pour l'instant, puisqu'il y a cet espoir du vote. Nous verrons comment le vote se passe, hein, parce que c'est ça, Marion Quillard, l'enjeu aussi.
Absolument, c'est le déroulement du scrutin. C'est la grande, la grande inconnue.
Bon, merci beaucoup. Merci Romain Laurando d'être intervenu depuis Alger, où vous continuez votre travail de photographe. Merci Romain.
Merci.
Bon, soyez prudents, bonne chance à vous. Merci Marion Quillard.
Merci.
Le reportage photo sur Bab El Oued est à retrouver dans la revue 6 mois qui met en couverture l'Orient Extrême. Merci beaucoup. On change d'ambiance dans un instant avec une séquence livre de poche depuis Genève avec le Mauritanien Berouk et la Belge Caroline Lamarche pour parler de nos relations avec les animaux. Et on écoute tout de suite le tout nouveau titre de Ronan Luce dans la librairie francophone.
Est-ce qu'on peut reprendre au début? Reboire le vin que l'on avait bu. Moi j'aimerais que l'on se rendorme dans un lit à mémoire de forme et que l'on se réveille pareil. Est-ce qu'on peut reprendre mine de rien comme à la page cornée du bouquin qu'on avait refermé la veille en luttant contre le sommeil? Est-ce que jusqu'au mot fin on tient? Je sais bien l'existence suit le même unique sens que l'eau, mais referais-tu ce baiser au fer autant que voler tantôt? Est-ce qu'on peut reprendre à la source, poser les pierres qui changent sa course, inonder un nouveau décor? Va savoir ce qui peut éclore, des plantes au bord du fleuve, toutes neuves. Je sais l'incandescence des cœurs et par essence fragiles, mais referais-tu ce baiser au fer autant que voler fébrile? Est-ce qu'on peut reprendre au début? Est-ce qu'on peut reprendre au début?
C'était le tout nouveau titre de Renan Luce avec Au début. Une séquence livre de poche à présent avec le Mauritanien Bérouk au Salon du Livre de Genève en 2016. Son roman Le Tambour des Larmes est paru en poche chez Elizade. Retour sur un entretien en public.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Alors vous montrez quand même les différences entre la vie des tribus de Mauritanie et la vie des Mauritaniens en ville. C'est le choc des cultures, c'est aussi un choc de civilisation au sein du même pays.
Oui, c'est quelque chose qu'on a connu il n'y a pas longtemps, parce qu'en Mauritanie nous sommes avant tout des gens du désert, des gens de la Badia, des grands espaces. Et aujourd'hui la ville s'est implantée, la ville et la culture de la ville. Ces deux cultures s'affrontent. C'est une rencontre.
Oui, c'est une
toujours.
Rencontre. Et puis, dans les villes, à Nouakchott, par exemple, il y a ces gens du désert qui se sont installés à un moment dans les villes.
Oui, ils s'installent dans la ville, ils s'installent dans de grandes maisons. Il y a toujours une tente dans la maison et il y a un chameau pas loin,
oui.
Pour ne pas se sentir complètement perdu.
Oui, c'est vrai qu'il est beaucoup question de chameaux hein, dans votre livre. Bon, c'est une histoire terrible, hein, Bérouk. Elle met en perspective une réalité africaine douloureuse. Les femmes sont sous le diktat masculin. Certaines, comme la mère de Rayana, surenchérissent. Elles vont encore plus loin pour préserver l'honneur. Et là aussi, au détriment de leurs filles.
Oui, parce que la mère, c'est aussi la gardienne de la vertu. C'est la gardienne des traditions, comme le père. C'est la gardienne de la philosophie ancienne. C'est la gardienne de la religion dans une société traditionnelle. Plusieurs questions m'ont été posées. Comment as-tu pu intégrer ce personnage féminin? Parce qu'en fait, j'ai grandi au milieu de femmes. J'ai grandi au milieu de ma grand-mère et de ma mère, parce que ma mère m'a eu quand j'étais très jeune. J'ai grandi à côté de ma grand-mère, de ma mère, de mes soeurs. Tout un ensemble de femmes. J'ai grandi au milieu des femmes.
Elles vous ont donné leur voix, alors?
Elles m'ont donné leur voix, elles m'ont surtout appris à aimer les autres et à être soi-même.
Alors, il y a quand même une petite ambiguïté, si je peux me permettre, Bérouk, dans ce roman, parce que, à la fois, vous semblez désapprouver les traditions, et en même temps, face au monde civilisé, vous portez une critique très sévère.
Alors on se demande de quel côté vous êtes. Alors je sais que vous travaillez aussi pour le gouvernement. On se dit que vous êtes un peu peut-être dans une forme de diplomatie, dans un équilibre politique.
Non. Je suis comme ça. Je ne suis pas de. Je ne rejette pas de monde ancien. J'en suis issu. Je porte nos traditions. Je suis très imprégné de la culture traditionnelle que j'ai vécue. J'ai vécu à côté de ma grand-mère, mais aussi à côté de mon grand-père, qui n'était, lui, pas du tout un révolutionnaire, qui n'était pas non plus un démocrate, mais qui avait ses propres valeurs.
Et donc vous avez pris un peu de tout ça.
J'ai pris un peu de tout ça.
Des fragments à droite à gauche.
Pour me faire moi-même.
Oui, c'est ça.
Tout ça,
ouais,
voilà.
C'est ça. Vous pouvez applaudir Bérouk, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, ici, au Salon du Livre de Genève. Et vous avez créé Mauritanie Demain, hein, il faut le souligner, le premier journal indépendant de Mauritanie. Vous avez cette volonté aussi d'un journalisme libre, indépendant, en Afrique.
Il y a quelque chose que vous oubliez, je l'ai dit souvent. J'ai participé à la création de la première association mauritanienne de défense des droits de la femme.
Ouais.
Et j'étais le seul homme du bureau de cette, du bureau exécutif de cette association. Les autres militants des droits de l'homme avaient refusé de figurer avec eux.
C'était Bérouk depuis Genève avec son livre Le tambour des larmes qui est sorti en poche chez Elisade Poche. Et nous serons au Salon du Livre de Genève pour une séquence consacrée à l'événement début mai.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Caroline Lamarche est dans la librairie pour son recueil de nouvelles « Nous sommes à la lisière » paru chez Gallimard, un recueil sélectionné pour le prix Goncourt de la nouvelle qui sera décerné le 7 mai. Il est beaucoup question d'animaux et surtout des liens entre les animaux et les humains. De quoi sommes-nous à la lisière, Caroline ?
Écoutez, j'ai choisi ce titre en le tirant d'un livre de Pierre Gascard intitulé « Les bêtes » qui a été publié en 1952. Et la phrase c'est « À tout instant, la bête peut changer, nous sommes à la lisière ». C'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui on a l'impression, on voudrait dire « À tout instant, l'homme peut changer, nous sommes à la lisière ». Nous sommes quand même quelque part à la lisière d'un effondrement climatique, planétaire, etc. Cette notion de lisière s'applique à plusieurs étages, je dirais. D'abord, entre l'homme et l'animal, ce sont des histoires d'humains en crise, en quelque sorte, qui croisent sur leur chemin des animaux brièvement ou de manière plus forte.
Plus intense. Il y a cette première nouvelle qui mérite à elle seule que l'on se procure votre livre, Caroline. L'histoire de Louis et de Froufrou. Un canard qu'il a récupéré au refuge pour oiseaux dans lequel il travaille, une canne très exactement. Les oiseaux qui sont, selon vous, souvent un peu comme les humains lorsqu'ils sont privés de liberté.
Mais écoutez, en fait, j'ai travaillé pendant un an et demi dans un refuge de revalidation pour oiseaux blessés et j'ai compris beaucoup de choses du monde humain et de l'urgence qui se met en place quand un animal souffre, de cette espèce de solidarité, d'impuissance, de courage des bêtes aussi. Et ça m'a appris beaucoup sur l'homme, mystérieusement.
Et ce lien d'affection, c'est possible entre un homme et un canard ?
Ah bah écoutez, c'est très autobiographique.
C'est vrai, vous l'avez vécu ça ? Vous avez vécu une histoire d'amour avec un canard ?
Ah bah j'ai vécu une love story avec un canard. Je dirais même que j'ai écrit la nouvelle, qui est la plus longue du recueil, pour me remettre du départ vers la liberté, vers la sauvagerie de cette bête. Qui, si j'avais un peu insisté, serait restée près de moi. Mais j'ai vraiment, quand on aime, on laisse partir.
Vous dénoncez au passage aussi le mal que l'on fait aux oiseaux avec les herbicides dans les champs qui les rendent malades. Les moineaux par exemple, qui se font de plus en plus rares en ville, on le dit, et on le constate d'ailleurs, mais aussi à la campagne. Les oiseaux sont des animaux moins considérés que les autres par les hommes ?
Écoutez, moi dans mon enfance, mon père m'avait fait une mangeoire à oiseaux et un petit théâtre de marionnettes. Et j'ai toujours dit que les deux lieux de ma consolation, c'était la maison de la nature et la maison de la fiction. Et aujourd'hui, la maison de la nature, elle souffre beaucoup. Et on sait qu'en France, 30% des oiseaux ont disparu en une quinzaine d'années. En Belgique, c'est 50%.
Ah oui.
Les insectes ont disparu, disparaissent. Et un jour, comme l'écrivait Rachel Carson, déjà dans les années 60, un jour le ciel sera vide si nous continuons.
Il y a aussi Mensonge, le cheval et cette gamine qui va rêver grâce à lui. Le cheval qui incarne souvent l'espoir et la liberté.
Ce cheval s'appelle étrangement Mensonge. Je ne sais pas d'où m'est venu ce titre. Quoi qu'il en soit, pour cette jeune fille, les adultes mentent, ça c'est certain. Et ce cheval représente une espèce de liberté et en même temps de risque, parce qu'elle n'a jamais appris à monter en réalité.
Mmh. Elle dira « J'aimerais sentir le cheval toute ma vie. J'aimerais qu'on sente, quand on m'approche, l'odeur de mensonge qui est celle de mon amour. » On va laisser la parole à nos libraires, Caroline Lamarche.
Merci, Emmanuel.
Ils ont tous les quatre lu votre livre, La Belgique, la France, la Suisse et le Canada. On commence par qui ?
Ah, mais la Belgique, en plus, elle habite tout près de chez moi.
Allons-y, la Belgique, Nathalie Clairin.
Oui, bonjour. Je voudrais donc dire à ma chère compatriote que son livre est tout à fait sublime, soigné, intelligent, brillant. Et d'abord, j'ai trouvé l'idée très originale et poétique d'introduire un animal dans chacune de vos nouvelles. Ça me donnait l'envie de faire un rapprochement avec les fables, où les animaux ont une certaine sagesse. Mais ici, il n'y a absolument rien de moralisateur, et donc vos animaux se taisent. Et donc, ils jouent le rôle de véritable miroir pour les hommes, en symbolisant leur fragilité, mais aussi leur résilience et leur liberté. Et donc c'est une perspective de narration que j'ai trouvée fort intéressante. Donc je n'ai qu'un mot à dire, foncez pour lire ce livre et rencontrer le papillon, l'écureuil, ce sont mes deux préférés. Donc chaque nouvelle est une véritable révélation.
Merci, merci.
C'est complet. La France, ça vous va la France avec
oui,
la Martinique
très bien.
Anne-Rosine Vosa, quel est votre avis ?
Moi, pareil, hein, ce livre m'a énormément touchée car il est un vibrant hommage à la vie dans ce qu'elle a de plus fragile. L'auteur nous fait sortir de notre zone de confort émotionnel pour mieux nous faire réfléchir sur notre condition humaine qui est étroitement liée à celle de la nature qui nous entoure. Donc, magnifique. Très beau livre.
Merci.
Est-ce qu'on tente le Canada ?
Oui.
L'ami de Dan Franck. Oui. Jérémy Lagnel, c'est oui. À vous.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Jérémy. Et vous salue
Bonjour,
Dan Franck. Allez-y.
Mais j'aimerais vous remercier Emmanuel car il s'agit de ma première rencontre avec Caroline Lamarche et c'est une rencontre que je ne suis pas prêt d'oublier. Ce livre est une merveille, tout simplement. Hein. C'est une écriture fluide, c'est un livre tendre. Nous sommes à la lisière, est un recueil minuscule mais contenant d'énormes morceaux de bravoure. Il y a un réel travail d'orfèvrerie dans chacun de ces textes. Me voici ambassadeur d'un livre contre la solitude
Oula.
Des hommes.
Mon Dieu, mais c'est incroyable. Mais que vous arrive-t-il Dan Franck est très heureux
merci,
pour Caroline
monsieur,
Lamarche.
Je suis content.
Bon, dans l'une de vos nouvelles, on va donner la parole à la Suisse tout à l'heure, mais il y a un texte sur Bruxelles qui ouvre votre récit. C'est une description rude, sans concession de Bruxelles. Et Dan Franck, c'est drôle parce que dans votre livre, vous évoquez le rapport de Baudelaire à la Belgique. Il a eu des écrits très durs sur
très
les Belges
dur, très
et
violent.
Sur Bruxelles. Alors justement, on va lire cet extrait et vous avez accepté, Dan Franck, je vous remercie
Bien
sincèrement.
Sûr.
C'est une surprise pour Caroline Lamarche. Et ce sera sur la musique d'Orange Blossom Yassidi, que vous connaissez, puisque c'est la bande originale, le générique de la série Marseille. On envoie la musique et je vous fais un signe, Dan.
Autrefois belle, Bruxelles s'est jetée du haut d'une de ses tours moyennes, désespérée de n'être pas Manhattan, et cela a suffi à nous la rendre tordue, habitée par le souvenir de ce suicide raté, avec le désir furieux de le rééditer. Bancale à son image, nous survivons, et chose extraordinaire entre toutes, nous parvenons à créer, et encore, à aimer. Bruxelles, impossible à aimer, rend tout amour possible. Une sorte de compassion nous vient par la ville même, par sa mémoire qui flotte, dévastée, au-dessus de nos têtes. Elle est l'emblème d'un pays qui finira en charpie. Elle est nous, notre corps en morceaux, poreux aux cris du monde. Tous y sont en exil, tous veulent y rester.
Merci.
Magnifique texte.
De ce livre de Caroline Lamarche, lu par Dan Franck.
Merci Dan.
Mais non, c'est un très beau texte, j'étais content de le lire.
Très belle lecture, félicitations
oui,
Dan Franck, merci beaucoup. Il y a aussi un hérisson dans une autre nouvelle, on va revenir aux animaux.
Oui.
Ce hérisson, on va en parler dans un instant après Laura Sanchez qui veut intervenir et qui est en Suisse.
Merci,
et qui
Laura.
A aimé votre livre, je crois, Laura.
Oui, oui, moi j'ai aussi beaucoup apprécié ce recueil. Par moments, on ne sait plus si certains personnages sont des humains ou des animaux. Et c'est très troublant, mais c'est aussi intéressant parce que ça pose des bonnes questions. Et puis l'apothéose du recueil arrive avec ce dernier texte, avec la possible réincarnation d'un petit enfant en écureuil. Je trouve que vous touchez au poétique, mais aussi au philosophique.
Vous avez séduit nos quatre libraires.
Merci, ben j'en suis formidablement heureuse pour moi et mes bêtes.
Le hérisson, souvent discret, souvent à la lisière justement. Je voulais qu'on termine avec lui parce que c'est vraiment l'animal à la lisière.
Et oui, et en voie de disparition aussi d'ailleurs.
Tant de dangers le menacent.
Et non plus d'insectes. Oui.
Comme un petit frère que l'on veut protéger. Il faut toujours protéger un petit frère, mais parfois on n'y arrive pas toujours comme on veut. C'est ce que ressent cette femme qui sauve un hérisson sur la route.
Oui,
et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs.
Oui, oui. Et puis cet hérisson est un peu une métaphore aussi de deux choses. De l'amour et d'un livre que la narratrice ne parvient pas à lire, qui est l'Ulysse de Joyce, et qui est un livre épineux, difficile à apprivoiser. Et le hérisson est aussi très difficile à apprivoiser, comme l'amour du reste. Et donc, je pense que c'est la nouvelle la plus ironique. Souvent, quand je parle d'amour, je suis extrêmement ironique. Et donc, c'est une nouvelle hérissée de piquant et de tendresse.
Mais vous allez très loin, Caroline, quand même, avec ces analogies. Entre un petit frère et un hérisson. Et entre les deux, franchement, il n'y a pas photo.
Mais je pense que c'est cette femme qui est assez délaissée par l'amour, en tout cas qui sa vie est un ratage amoureux, disons-le.
Ouais.
Elle voit dans les animaux un peu fugitifs et un peu compliqués, des sortes d'alter-ego. Mais ceci dit, ce n'est pas du tout un recueil à message. Je me suis rendu compte en rassemblant ces nouvelles que j'avais beaucoup écrit au fil des ans, depuis 20 ans, sur les animaux. Donc, ce n'est pas intentionnel. Ils étaient là à l'origine de la nouvelle ou bien ils l'ont traversée.
Merci beaucoup, Caroline
merci
Lamarche.
Beaucoup, Emmanuel,
merci, vous êtes très claire. En tout cas, c'est très incarné tout ça. Votre recueil de nouvelles, Nous sommes à la lisière, est paru aux éditions Gallimard. Il est sélectionné pour le prix Goncourt de la nouvelle, en compétition avec celui de Yannick Lahens, dont nous parlerons la semaine prochaine depuis Port-au-Prince, en Haïti. Entretien exceptionnel avec elle. Merci beaucoup. Bonne chance pour le prix Goncourt.
Merci, je croise les doigts.
À bientôt,
merci,
Caroline.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone, voici la chanteuse suisse June Milo.
Sous l'eau, oh, oh, arrête l'orage, il pleut des cordes à flot, oh, oh, les larmes sur ma peau. Tu ouvres l'œil à minuit, tu songes à des aveux, tonne, tonne. Sur tes lèvres, quitte à me perdre un peu, un baiser, une trêve, je peux aimer pour deux. Sous l'eau, oh, oh, arrête les vagues, il pleut des cordes à flot, oh, oh, les larmes sur ma peau.
La Suissesse June Milo, Sous l'eau, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Abonnez-vous à Instagram pour découvrir les coulisses de l'émission de radio et de télévision également avec la déclinaison de la librairie francophone à la télé. Merci Dan Franck, merci beaucoup. Merci Marion Quillard, merci Caroline Lamarche.
Merci Emmanuel.
À la réalisation Étienne Bertin avec le grand Mathias Alléon, Thierry Dupin à la prog musicale, à la rédaction Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Tocher en Suisse, René Mikils avec Valérie Le Petit en Belgique, Sylvie Julien avec avec Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une émission spéciale reportage. Nous parcourrons le monde à travers des entretiens et nos invités qui sont avec nous. C'est notre petit cadeau pour le week-end de Pâques. Bonne semaine, bon week-end à tous.